Chapitre 13. Première piste. Mount Pleasant, New Hampshire. 10 juillet 2010. Je téléphonai aussitôt à Gaal Wood pour l'en informer.
Harry Kébert ?
Réagit-il.
Impossible.
Je m'étonnai de sa réaction catégorique. Pourquoi ? Demandai-je. Il eut une hésitation avant de répondre.
J'étais certain qu'il s'était suicidé.
Suicidé ? Jamais de la vie. C'est mal le connaître.
Apparemment. Vous êtes sûr que c'est lui ?
Je regardais la capture d'écran que le concierge de l'hôtel venait de m'imprimer. L'image était de mauvaise qualité et il portait une casquette. Mais j'aurais pu reconnaître son visage entre mille. Certain. Il est venu vers 16h30, j'étais en pleine séance de dédicace. Ça ne peut pas être un hasard.
Effectivement, s'il savait que vous étiez à Mount Pleasant, il savait à quel moment vous seriez à la librairie. Que contenait le paquet qu'il vous a laissé ?
Une petite statue de mouette.
Encore ces conneries de mouette ? Qu'est-ce que c'est ? Une espèce de code entre vous deux ?
Harry me disait de ne pas me comporter comme une mouette. C'est clairement un signal qu'il m'envoie, comme un avertissement.
Un avertissement par rapport à quoi ?
Je marquais une hésitation. Je n'avais pas fait part à Gaal Wood de ma récente collaboration avec l'université Burroughs et je n'avais aucune envie d'aborder le sujet maintenant. « Je ne saurais le dire, sergent, » répondis-je finalement. « Vous ne pourriez pas faire une petite recherche sur lui ?»«
Vous me l'avez déjà demandé l'année passée, l'écrivain, et vous connaissez le résultat. Inconnu au bataillon. Je n'ai trouvé ni adresse, ni carte de crédit, ni numéro de téléphone. Il ne figurait sur aucune liste de passagers d'aucun aéroport du pays. Un vrai fantôme. »
« Un fantôme. C'était exactement ça. Il y eut un silence. » Gaal Wood, percevant ma perplexité, ajouta
« Lundi, au quartier général, je vérifierai encore. Il y a eu peut-être du nouveau depuis. »
« Merci, sergent. »
« Dites-moi plutôt où vous en êtes, l'écrivain, après 48 heures à Mount Pleasant. »
« J'ai interrogé le pompiste, Lewis Jacob. Il semblerait qu'il se soit passé quelque chose à Salem, la ville d'origine d'Alaska. J'ignore quoi. »
« C'est un début de piste ?» Il faudra aller à Salem interroger les parents d'Alaska de toute façon. Autre chose ?
J'ai rencontré Lorraine Donovan, la sœur d'Eric Donovan. Elle est flic à Mount Pleasant.
Elle est devenue flic. À l'époque, elle étudiait la biologie.
La condamnation de son frère a fait basculer son destin. Elle a fondé une association réclamant la révision du procès. Le collectif semble assez actif. Je n'en sais pas beaucoup plus. Elle est plutôt sauvage.
Vous devez absolument trouver un moyen de la faire parler. Elle a certainement compilé des éléments qui pourraient nous être utiles.
Et comment je fais ça sans lui dévoiler notre jeu ?
Vous lui servez votre baratin habituel ?
Me dit Gaal Wood. Mon baratin habituel ? M'offusquai-je. Je ne suis pas un bonimenteur, sergent.
Vous êtes un écrivain, c'est pareil. Vous n'avez qu'à lui dire que vous avez fait des recherches sur Internet à propos de son frère, que vous avez découvert son association, que ça vous intéresse et que vous voulez l'aider.
J'ai fait des recherches sur Internet à propos de ton frère. 2 heures après ma conversation avec Gaal Wood, je retrouvai Lorraine pour déjeuner. Nous nous étions donné rendez-vous au Season. À peine étions-nous installés sur la terrasse du café que j'entrai dans le vif du sujet. Elle resta interloquée, me dévisageant par-dessus le menu qu'elle était en train de parcourir. « Tu as fait quoi ?»« Ne le prends pas mal, mais j'ai été intrigué hier soir. » Quand tu m'as dit que tu étais devenu flic à cause de ton frère, je suis tombé sur le site de l'association que tu as fondée. J'ai pas fait des investigations très poussées. Il y a ta photo sur la page d'accueil du site. Elle commença par se rembrunir. T'aurais pas dû faire ça. Je suis désolé. N'y vois aucune malice. Juste de l'intérêt pour toi. Elle haussa les épaules. De toute façon, c'est public. Puis tout le monde est au courant ici. Mon frère est accusé d'avoir participé au meurtre d'une jeune femme de 22 ans. Ça s'est passé en 1999. Il est en prison depuis. Je sais qu'il est innocent. Eric ne ferait pas de mal à une mouche. Tous ceux qu'il connaisse sont convaincus qu'il s'agit d'une erreur judiciaire. Et pourquoi a-t-il été arrêté alors ? Alaska, la victime, sortait avec un bon copain de mon frère. Un type nommé Walter Carey qui a avoué le meurtre et a impliqué mon frère. Après quoi Walter s'est emparé de l'arme d'un policier et s'est suicidé. Mon frère a été arrêté dans la foulée. Il a joué de malchance. Entre autres preuves soi-disant accablantes, La police a retrouvé sur le lieu du crime un pull qu'il avait prêté à Walter, taché du sang de la victime. Mais si ton frère est innocent, pourquoi a-t-il plaidé coupable? Le regard de Lorraine se fit inquisiteur. Comment le sais-tu? Je t'ai pas mentionné sur notre site. Je l'ai lu sur Internet, mentis-je avec un aplomb qui balaya aussitôt ses doutes. Il y a été forcé, me répondit Lorraine. Pardonne-moi si je te parais un peu raide, mais c'est un sujet pénible. La gaffe avait été rattrapée de justesse, je savais que je finirais par mettre les pieds dans le plat. C'était une situation intenable. On n'est pas obligé d'en parler, dis-je. Non, ça va. En fait, ça me fait du bien d'aborder le sujet. Je la relançai malgré moi. Pourquoi dis-tu que ton frère a été forcé de plaider coupable? Concorde, New Hampshire, janvier 2002. La silhouette sinistre de la prison pour hommes de l'État du New Hampshire était battue par une pluie glaciale. C'était une après-midi lugubre. Tout semblait éteint à jamais. Dans une salle de visite mal chauffée et humide, Lorraine Donovan assistait à une conversation tendue entre son frère Eric et son avocate Patricia Whitsmith, une pénaliste jeune mais déterminée. Elle avait une trentaine d'années seulement, mais Lorraine sentait qu'elle se battrait jusqu'au bout pour Eric. C'était une femme de conviction, qui ne prenait d'ailleurs que des honoraires symboliques, consciente que la famille Donovan ne roulait pas sur l'or. Le procès d'Eric allait débuter dans 48 heures et l'avocate était visiblement inquiète. Jusque-là, elle avait soutenu Eric dans sa décision de plaider non coupable du meurtre d'Alaska Sanders, mais elle semblait sur le point de changer d'avis. L'enjeu était de taille. En plaidant non coupable, Eric s'exposait à un procès dont il ne connaissait pas l'issue et qui pouvait se solder par la peine de mort. En plaidant coupable, en revanche, il y échappait grâce à un accord passé avec le bureau du procureur. « Qu'est-ce que tu entends par « si on va jusqu'au procès » ?» demanda Eric d'une voix étranglée. « Tu voudrais soudain que je plaide coupable? Qu'est-ce qui te prend ?»«
Je ne veux rien, » répondit Patricia d'une voix douce. « Nous sommes à 48 heures du procès et je voudrais être certaine que tu mesures ce qui t'attend. C'est pour ça que j'ai demandé à Lorraine d'être là aussi. Nous avons encore le temps de réfléchir. Quand le procès aura débuté, il sera trop tard pour faire machine arrière. Comme tu sais, ils ont chargé le juge Mike Peters de l'affaire. Je me suis renseigné, c'est un juge favorable à la peine capitale. Si le jury te considère coupable, il te condamnera à mort sans aucun doute.
« Mais je suis innocent, bon sang !» s'écria Eric exaspéré. « Est-ce que même toi tu me soupçonnes à présent ?»«
Pas une seconde, Eric. Mais quelle avocate serais-je si je ne partageais pas mes doutes avec toi? C'est ta vie dont il est question. Dans 48 heures, je vais affronter un jury à qui le procureur va expliquer que ton ADN a été trouvé sur un pull taché du sang de la victime, qu'un message la menaçant a été fabriqué sur ton imprimante et que tu n'as pas d'alibi pour la nuit du meurtre. Je vais tout faire pour te défendre, Eric. Mais ça fait 3 ans que je me démène pour disqualifier ces preuves et à 48 heures du procès, je n'ai rien de suffisamment solide pour te dire, les yeux dans les yeux, que je te ferai acquitter. Si tu n'es pas acquitté, cela signifie que tu seras reconnu coupable du meurtre d'Alaska Sanders. Tu n'échapperas pas à la peine de mort.
« Nous ferons appel !» protesta Eric.
« Bien sûr que nous ferons appel !» lui répondit Patricia. « Mais la loi de l'État du New Hampshire est claire. L'exécution doit avoir lieu dans l'année qui suit la condamnation. Nous n'aurons donc pas de marge de manœuvre pour te sortir de là. Surtout, je dois t'informer ici d'un élément important. La loi exige que les condamnés à mort soient exécutés par injection létale, sauf si cela est impossible. Or, le New Hampshire ne possède ni salle d'injection, ni même les produits nécessaires.
« Alors ce sera la chaise électrique ?»
s'étrangla Lorraine épouvantée. Patricia Whitsmith mit quelques instants à répondre.
« Le New Hampshire ne possède pas de chaise électrique. Ce sera la pendaison. Eric sera pendu dans cette prison.
Quoi ?» hurla Lorraine. « Mais c'est impossible ! On ne pend plus les gens !»«
On fait bien pire, » murmura Patricia.
Eric resta impassible. Lorraine éclata en sanglots. Il y eut un long silence. On entendait en arrière-fond les bruits inquiétants de la prison. Eric finit par demander d'une voix sombre « Et si on accepte la proposition du procureur ?»«
La loi du New Hampshire exige que, lors d'un crime capital, si la peine de mort n'est pas prononcée, son auteur soit condamné à la prison à vie sans possibilité de libération. C'est donc ce que le bureau du procureur exigera dans ton cas. »
« Tu en penses quoi ?» demanda encore Eric à Patricia.
« Eric !» intervint Lorraine. « Tu ne vas pas plaider coupable. Tu es innocent, tu ne peux pas te compromettre. »«
Lorraine, est-ce que tu seras présente le jour de ma pendaison ?» s'emporta Eric.
« Est-ce que tu auras le courage de venir me regarder agoniser au bout d'une corde ?»
Eric semblait froid et dur. Lorraine pleurait.
« Eric !» reprit Patricia. « Quoi que tu décides, je serai à tes côtés. Je te défendrai corps et âme. Je sais que tu es innocent, j'en suis intimement convaincu. Je ne serais pas ici à tes côtés si je n'en étais pas persuadé. Mais une partie de moi considère qu'en plaidant coupable, tu nous donnes le temps de trouver les preuves qui t'innocenteront. J'ai bon espoir d'y arriver. Mais à quoi bon prouver ton innocence si tu as été exécuté? Tu ne seras qu'un nom de plus pour alimenter le débat sur la peine de mort. Moi, je te veux libre. Pour ça, j'ai juste besoin d'un peu de temps. Et ce temps, il n'y a que toi qui peux me l'accorder.
Voilà pourquoi Eric a plaidé coupable, m'expliqua Lorraine. C'était sa seule chance d'échapper à la mort et pouvoir ensuite être innocenté. Il a donc accepté l'offre du procureur. Il n'y a pas eu de procès. Mais il a écopé de la perpétuité sans possibilité de remise de peine. Depuis, Patricia et moi, nous nous démenons pour le sortir de là. On a monté cette association Liberté pour Eric Donovan pour sensibiliser l'opinion publique. Et surtout, on mène notre propre enquête.
Et vous en êtes où ?
Demandai-je.
On a des éléments, des pistes. Mais après 11 ans de recherche, rien de suffisamment concret pour rouvrir un procès. C'est tellement enrageant. Il y a des jours où je désespère.
Donc c'est suite à la condamnation de ton frère que tu es devenu flic?
Oui. Pour tenter de réformer le système de l'intérieur. Pour servir une vraie justice et pas une parodie qui jette les innocents en prison. Mais surtout, je me suis dit, qui mieux qu'un flic dans la ville où le meurtre a été perpétré pour comprendre ce qui s'est passé ce soir d'avril 1999?
Un rayon de soleil se réverbéra sur le cadran de sa montre et un éclat de lumière en jaillit, comme si l'objet manifestait soudain sa présence. Elle y jeta un regard nostalgique.
Après la condamnation d'Eric, je me suis juré de ne jamais me résigner, de ne jamais le laisser tomber.
Un jour, lors d'une visite à Eric en prison, il m'a fait part de ses inquiétudes pour nos parents. Il savait que toute cette affaire avait fait du tort au magasin, que les clients hésitaient désormais à venir. Je le rassurais. « Ça passera, Eric, ne t'en fais pas. » Mais il s'en faisait. « Et les honoraires de Patricia, comment font-ils ? » ?»«
Elle travaille gratuitement, c'est une pratique de son cabinet d'avocat. Tout va bien, vraiment, je t'assure. »
Il a fini par me parler de cette montre qu'il conservait sous une latte mal fixée du parquet de sa chambre à coucher. C'était une montre de très grande valeur qu'il cachait justement pour éviter un vol. Il avait acquise 3 mois avant son arrestation pour un prix imbattable, dans l'optique de la revendre et de faire une belle plus-value. Ce jour-là, Eric m'a dit de récupérer cette montre dont il n'aurait plus jamais l'utilité et de la vendre pour pouvoir aider mes parents. Il l'ignore, mais je ne l'ai pas fait. Ça aurait été accepté qu'il ne sortirait jamais de prison. Au lieu de ça, je me suis mis à porter cette montre. Je porte cette montre en attendant de la lui rendre le jour de sa sortie. Elle me rappelle mon combat.
Elle est un peu comme une chaîne à ton poignet, fis-je remarquer.
Lorraine s'agaça de ma remarque, sans doute parce que j'avais raison.
« Pourquoi tu t'intéresses à tout ça, Marcus ?»«
Il y a 2 ans, j'ai mené une enquête. Un de mes amis très proches a été arrêté pour meurtre. Tout l'accusait. Je suis parvenu à l'innocenter et à le sortir de prison. Je l'ignorais. C'est le sujet de mon livre « La vérité sur l'affaire Harry Kéber ». Il faut que je lise ce roman. »
Et ne put s'empêcher de jeter immédiatement un œil, grâce à son téléphone, à ce qu'Internet disait à propos de l'affaire dont je venais de lui parler. Elle fut visiblement impressionnée par ce qu'elle découvrit.
« C'est fou !» me dit-elle. « J'ai évidemment suivi l'arrestation de Harry Kéber à l'époque, comme tout le monde. Je le connaissais de nom, je n'avais jamais lu son fameux bouquin. Mais je ne savais pas que tu étais derrière toute l'enquête. Donc, du jour au lendemain, tu es parti dans le New Hampshire pour essayer de prouver son innocence. C'est exactement ce qui s'est passé. Un matin de juin, en apprenant la nouvelle, j'ai quitté New York en voiture, envers et contre tout. Mon éditeur, mon agent, ma famille, tout le monde a essayé de me dissuader. Mais tu n'as pas renoncé. Je savais que Harry était innocent. J'en avais la conviction absolue. Il n'avait pas pu tuer cette fille. Quand on sait, on sait. Tu vois ce que je veux dire? Et je vois exactement. Ça fait 11 ans que je vis ça avec mon frère. J'imagine que la digression sur l'affaire Harry Kéber acheva de convaincre Lorraine que je pouvais l'aider dans sa quête. Aussi, après le déjeuner, elle me proposa de venir chez elle pour prendre un café et surtout partager les éléments dont elle disposait pour disculper son frère. Lorraine habitait une charmante maison en briques rouges. C'était une architecture classique, avec une galerie ouverte qui offrait un espace propice pour passer les soirées d'été dans des fauteuils d'extérieur, un œil sur la rue tranquille. La bâtisse était entourée d'un jardin petit mais remarquablement entretenu. Nous nous installâmes dans la cuisine. Elle fit couler 2 expressos d'une machine italienne chromée, puis s'assit derrière le comptoir en marbre face à moi. D'un tiroir, elle sortit un porte-document cartonné. Le dossier concernant l'affaire Alaska Sanders. Je l'imaginais, matin et soir, passant des heures à en relire inlassablement les pages. Et justement, elle m'avoua, « Pas un jour ne passe sans que je me plonge dans ces documents. » En vain. Avec le temps, je ne sais même plus ce que je cherche. Je commence à désespérer. « Est-ce que je peux y jeter un coup d'œil ?» demandai-je. « Évidemment. » J'étalai les pages devant moi. Je commençais par la question du pull au vert. Ce pull appartenait bien à mon frère, m'expliqua Lorraine. Mais comme je te le disais, il l'avait prêté à Walter Carré après une partie de pêche à la mouche. Ils étaient très amis, c'est ça? Des amis d'enfance. Elle passa au document suivant et je vis une photo d'une imprimante. Et ça, fis-je, c'est l'imprimante dont tu m'as parlé avant? Oui. Figure-toi qu'Alaska Sanders avait reçu des messages de menaces, dont l'un a été retrouvé sur son cadavre. Les messages présentaient un défaut d'impression, ce qui a permis aux experts de la police d'identifier formellement l'imprimante de mon frère comme étant celle utilisée pour fabriquer les messages de menace. Comment ton frère s'est-il défendu? Mon frère habitait chez mes parents. Il venait de se réinstaller à Mount Pleasant après plusieurs années à Salem. Quiconque avait accès à la maison de mes parents avait accès à la chambre de mon frère et à son imprimante. Mais surtout, quelque temps avant le meurtre d'Alaska, Walter était venu utiliser l'imprimante d'Eric parce que la sienne était en panne. Walter aurait tué Alaska et voulu piéger ton frère? Lorraine eut une moue. C'est la théorie que soutient l'avocate d'Eric. Tu n'as pas l'air d'y croire. Pour toute réponse, Lorraine sortit une photo du dossier. On y voyait un groupe de jeunes femmes dans un bar qui semblait faire la fête. Dans le champ de la photo apparaissait un homme. Je le reconnus immédiatement pour l'avoir vu dans le dossier de police. Il s'agissait de Walter Carré. Qui est-ce? Demandai-je car je devais jouer les ingénus. C'est Walter Carré, me dit Lorraine. Cette photo a été prise le soir du meurtre d'Alaska Sanders dans un bar de la ville, le National Anthem. Et? Demandai-je. Cette photo innocente Walter Carré. Comment ça? Le soir du meurtre, Eric, Walter et moi étions ensemble dans ce bar. Eric et moi sommes partis à 23h. Walter, lui, est resté. Alaska a été tué entre 1 et 2 heures du matin cette nuit-là. Walter a toujours affirmé qu'il était dans le bar à l'heure du meurtre, ce que personne n'a pu confirmer avec certitude. Cette photo est son alibi. Regarde bien l'écran derrière le bar. Elle attrapa une loupe dans son tiroir et me la tendit. Au premier plan de la photo, le groupe de filles adossé au comptoir. En arrière-plan, au-dessus d'une rangée de bouteilles d'alcool, un écran géant. On devinait à l'image qu'il diffusait une chaîne d'information en continu. Le passage de la loupe me permit même de constater qu'il s'agissait des prévisions météo du week-end. En bas de l'image, comme c'est l'usage sur ce genre de chaîne, un bandeau défilait avec des brèves. Et à l'extrémité du bandeau, l'heure de diffusion. Il était inscrit 22h43 PT. La photo a été prise à 22h43, fis-je remarquer, soit bien avant le meurtre.
22h43 PT, précisa Lorraine. C'est-à-dire Pacific Time, l'heure sur la côte ouest. Ici, il était 3 heures de plus. 1h43 du matin, m'écriai-je.
C'est exact, acquiesça Lorraine.
Au moment où Alaska était tué, Walter Carey était encore dans ce bar.
Je restais sidéré.
Comment as-tu trouvé cette photo?
Je l'ai récupérée peu après l'arrestation de mon frère, alors que j'essayais d'aider son avocate à réunir des preuves pour l'innocenter. Le propriétaire du National Anthem avait l'habitude de prendre des photos pour les diffuser sur son site internet et vanter l'ambiance de son établissement. Et cette soirée s'y prêtait bien. Je voulais remonter le fil de la soirée et j'ai demandé au patron du bar d'avoir accès à toutes les photos qu'il avait prises ce soir-là. Il y en avait un paquet en vrac. J'ai passé en revue chacune d'elles jusqu'à trouver celle-ci.
Je dus faire un effort pour contenir mon agitation. C'était la preuve dont Gaal Wood et moi avions besoin pour que l'enquête soit officiellement rouverte.
« As-tu parlé de cette photo à quelqu'un ?» demandai-je.
« À part Patricia Whitmith, non ?»«
Pourquoi n'avoir rien dit ?
Cela aurait permis de laver l'honneur de Walter Carey. »«
Parce que ça enfonce davantage mon frère. »
J'étais dubitatif. Lorraine le remarqua aussitôt et me demanda.
« Tu en penses quoi, Marcus ?»«
Que tu fais fausse route. »
Comment ça?
Tu essaies à tout prix de prouver l'innocence de ton frère et visiblement tu tournes en rond. C'est l'affaire en entier qu'il faut résoudre si tu veux disculper Eric. Il faut découvrir qui a vraiment tué Alaska Sanders. Et il semble que ce ne soit ni ton frère ni Walter Carey.
Alors qui?
Lorraine me dévisagea longuement, ses yeux plantés dans les miens.
Marcus, je ne te connais pas, mais pour une raison qui m'échappe, je te fais confiance.
Pour la première fois depuis 11 ans, je me sens soudain moins seul. Est-ce que tu crois que tu peux m'aider?
Le dimanche, en fin de matinée, Gaal Wood vint me rejoindre à l'hôtel. Pour être à l'abri des oreilles indiscrètes, nous restâmes dans ma chambre. Il semblait soucieux. Je lui demandai si c'était lié à l'enquête. Il me répondit que c'était surtout lié à la vie. Comme toujours, il éludait.